L'Ayurveda Sourire, une émission présentée par Gwenaël Bhattar, praticienne en médecine ayurvédique, herbaliste, auteure et conférencière.
Bonsoir mes superbes pépites, je suis ravie de vous retrouver ce soir pour la suite de nos aventures à travers les paysages de l'Ayurveda Sourire. On a déjà parlé lors des derniers épisodes de plusieurs facettes de l'Ayurveda Sourire, en commençant par les bases pour comprendre ce qu'est l'Ayurveda, puis après on y a ajouté une bonne dose d'optimisme, on a profité de l'été de la meilleure façon qui soit, on a exploré la lune et sa magie, la philosophie du yoga. Et aujourd'hui, je suis heureuse de toucher à des sphères plus énergétiques pour continuer à vous relier avec le sourire, à votre part de sacré, à votre joie naturelle, votre nature profonde, en faisant recirculer l'énergie, comme il se doit, dans votre corps et dans tous vos corps d'ailleurs, en vous parlant des chakras. Pour m'accompagner ce soir, j'ai le grand bonheur d'accueillir un guérisseur des temps modernes, un homme qui respire le soleil et la bonne humeur. Il est énergéticien, thérapeute holistique et auteur d'un livre qui est sorti aux éditions First sur sa pratique « Une énergie qui guérit ».
Cette énergie qui guérit.
Cette énergie.
Bonjour.
Cette énergie qui guérit, itinéraire d'un guérisseur des temps modernes. Bonsoir Romain Camus.
Bonsoir Gwenaël.
Alors du coup, pour commencer, on va déjà refaire le point sur les chakras. Les chakras qui se disent en réalité chakras sont des centres énergétiques. C'est comme un point de jonction en fait, un peu de entre différents canaux énergétiques. C'est une espèce de roue qui fait circuler les énergies à différents étages du corps et qui nous relie au monde subtil et à l'extérieur. Alors, ils ne sont pas à proprement parler situés dans le corps physique, mais plutôt dans des couches un petit peu plus subtiles. Et chaque chakra, en fait, a une fonction, il a une fréquence, il a une couleur. Et il est relié aussi à une glande endocrine dans le corps physique, ce qui permet en fait de le matérialiser de façon un petit peu plus claire. En Ayurveda, la notion de chakra, elle est très importante parce que leur bon fonctionnement permet une circulation énergétique adéquate. Et puis, un fonctionnement harmonieux des chakras sera particulièrement utile aussi pour tout ce qui est maladies chroniques, des maladies aussi qui sont très installées, l'immunité un petit peu basse ou la fatigue importante, l'asthénie. Donc, en fait, tout ça, ça peut accompagner. Il y a 7 chakras principaux qui sont situés le long d'une espèce de colonne vertébrale énergétique qui s'appelle Sushumna. Et il y a aussi en fait 49 micro-chakras. Donc le chakra racine, Mooladhara, qui est donc le premier chakra, qui est situé entre les organes génitaux et l'anus, est de couleur plutôt rouge, donc il est relié aux glandes surrénales. C'est un chakra en fait qui est relié à l'ancrage de façon générale, à la stabilité. Et d'ailleurs, on voit en Ayurveda qu'il y a beaucoup de troubles de l'énergie vata, donc l'énergie de l'air, de l'éther, qui est reliée aussi à ce chakra-là. Après, les troubles en fait des doshas peuvent être liés à tous les chakras, mais en tout cas, du coup, c'est le cas là pour ce chakra numéro 1. Le chakra numéro 2, donc Svadhisthana, qui est plutôt de couleur orange, lui est situé en fait entre le premier chakra et le nombril, et il est relié du coup plutôt aux organes reproducteurs, aux gonades. Là, en fait, on est plus en fait sur tout ce qui est sexualité et puis aussi la part de féminin et de masculin qu'on a en nous. Le troisième chakra, qui est le chakra solaire, Manipura, lui est plus de couleur jaune. Et là, il est plus au niveau du plexus solaire, il est plus relié au foie, à la rate, au pancréas. Et là, on est plus sur des émotions, on est plus sur un travail aussi de l'estime de soi et de pouvoir. Le quatrième chakra, le chakra du cœur, Anahata, qui est au milieu de la poitrine, lui est plutôt de couleur verte. Et donc là, on est en fait sur tout ce qui est amour universel, sur l'acceptation, la compassion, toutes ces choses-là. Et là, c'est relié au thymus. Après, le quatrième chakra, qui est le cinquième chakra, pardon, qui est le chakra de la gorge, donc Vishuddha, lui est plutôt de couleur bleu ciel. Et là, en fait, on est en fait sur tout ce qui est expression, sur la communication, et on est relié plutôt sur la glande thyroïde. Après, on passe au sixième chakra, Ajna, qui est le chakra du troisième œil, qui est donc dans la zone de l'hypothalamus, entre la glande pinéale et l'hypophyse. Et du coup, là, on est sur tout ce qui est intuition, clairvoyance, et on est sur de la couleur plutôt indigo. Et après, le septième chakra, le dernier chakra, le chakra coronal, qui s'appelle Sahasrara. Là, on est en fait sur plutôt une couleur violette, c'est le lotus aux mille pétales. Et là, c'est tout ce qui est vraiment la spiritualité dans le sens de l'unité avec le tout. Et là, c'est vraiment en fait se relier vraiment au divin. C'est au niveau de la fontanelle, c'est un petit peu au-dessus de la tête. Ça fait d'ailleurs un peu comme les cercles, en fait, les auréoles des anges. Donc voilà. Donc ça, pour faire le petit point en fait sur les chakras, qui est quand même important, un petit rappel pour que vous puissiez vous resituer. Après, le chakra du cœur, il est important parce qu'en fait c'est un médiateur entre les trois premiers chakras, donc les chakras du bas, et les trois chakras du haut. Donc les trois chakras du bas qui sont plus reliés aux émotions, et ceux du haut plutôt à la pensée. Donc c'est un médiateur en fait qui va faire un petit peu le tour, on va dire, entre les deux, qui va faire la jonction et qui va, avec la puissance du cœur, en fait, envoyer tout un champ électromagnétique au monde, tout ce qui est à l'intérieur de vous vers l'extérieur. Donc voilà, donc ça c'est le petit résumé sur les chakras. J'espère que ça a été clair pour vous, que vous n'êtes pas trop perdu avec les mots sanscrits. Qu'est-ce que tu en penses, toi, Romain? Comment tu vois les chakras? C'est quoi pour toi?
Bah, pour moi, les chakras sont des centres d'énergie. Et ce que j'explique aux gens, en général, c'est que dans l'Ayurveda, on part du principe que chacun d'entre nous, être humain, mais tout comme la plante verte, le petit chat, etc., nous sommes une entité énergétique. Et les chakras sont là justement pour nous permettre d'échanger avec ce qu'on appelle le cosmos, c'est-à-dire les gens, les situations, les lieux, tout ça. Le premier chakra étant celui qui va nous relier à la terre, et le dernier au ciel. Et au milieu, bah, c'est justement pour faire la jonction avec tout ce qu'il y a autour de nous. Mmh. Alors, moi, pour rajouter à la description que tu as donnée, le premier chakra, pour moi, celui qui est au niveau du périnée, c'est aussi le rapport relationnel avec la mère, la maman. Mmh. Il gère aussi l'instinct de survie, c'est-à-dire que quelqu'un qui a ce chakra complètement fermé, bah, c'est quelqu'un qui peut être en dépression, en burn-out, c'est quelqu'un qui peut se jeter sous le métro, enfin, c'est quelqu'un qui n'a plus d'instinct de survie. Donc, c'est pour ça que ça peut aller assez loin, on va dire. Ensuite, deuxième chakra, on a parlé de la sexualité, mais on va mettre aussi dedans l'alimentation, on va mettre l'art, c'est-à-dire tout ce qui provoque des émotions positives, négatives. Et pour que les auditeurs comprennent bien le fonctionnement des chakras, si on prend un deuxième chakra fermé au niveau sexualité, c'est quelqu'un qui va avoir aucune libido, impuissance... rien du tout. Mais par contre, quelqu'un qui l'a beaucoup trop ouvert, parce qu'on parle souvent de se faire ouvrir les chakras, mais on parle rarement d'un chakra trop ouvert, bah c'est quelqu'un qui va être dans la perversion sexuelle, qui va avoir une libido un peu hors norme, et qui va avoir besoin en permanence d'énormément de sexualité. Alors quelqu'un d'équilibré va être entre ces deux-là. Au niveau alimentation, complètement fermé, bah on va aller jusqu'à l'anorexie, beaucoup trop ouvert, boulimie. Et ainsi de suite. Alors, on n'est pas soit au milieu, soit d'un côté, soit de l'autre. Mais ce qui va se passer, c'est moins on va avoir d'énergie et moins cette énergie va être de qualité, plus on va se laisser aller vers un côté ou l'autre. Pourquoi ? Parce qu'au lieu d'être en interaction avec le cosmos, on va être à la merci du cosmos. C'est-à-dire que on n'a pas la main, on a l'impression de ne pas conduire sa vie, de vouloir aller à droite, on va à gauche, de prendre une décision, c'est une autre qui est prise, et ainsi de suite. Ben ça, en général, ça décrit un état énergétique très faible, et plus l'énergie est manquante ou mauvaise, ben moins on va avoir la main sur tout ce que l'on fait. Mmh. Ensuite, troisième chakra, ben c'est le chakra de la confiance en soi, de l'estime de soi. Donc quelqu'un qui va avoir ce chakra complètement fermé, ben c'est quelqu'un qui va parler tout. Il aura peur de déranger. Et par contre, quelqu'un qui l'a beaucoup trop ouvert, c'est quelqu'un qui va être ostentatoire, qui va se la péter en permanence, qui va « j'ai tout vu, j'ai tout fait », etc. Donc, il va prendre la tête à tout le monde. Là aussi, ce troisième chakra, c'est... En fait, il faut voir les chakras comme justement des fleurs de lotus. Donc, une fleur, ça peut s'ouvrir un petit peu, se refermer un petit peu, mais c'est pas grand ouvert ou complètement fermé. Donc, si jamais on doit intervenir devant 200 personnes lors de l'assemblée de je sais pas quoi, effectivement, ça peut être normal d'avoir une petite boule au ventre, comme on dit, et d'avoir le chakra qui se referme un petit peu. Bon, dans ces cas-là, il y a des choses très simples comme l'huile essentielle de laurier noble à respirer. Ça permet de garder confiance en soi, estime de soi, etc. Faut penser au laurier de César ou s'asseoir sur ses lauriers. Ça marche très, très bien. Mais en tout cas, plus on va être dans une bonne énergie, bah, plus ces chakras vont rester justement sur ce juste équilibre, ce juste milieu. Niveau du quatrième chakra, bah, on va parler de l'amour. Alors, comme tu l'as précisé, c'est l'amour universel. Donc, ce n'est pas uniquement le chéri, la chérie, etc. C'est l'amour parental, filial, c'est l'amitié. C'est en fait toutes les formes d'amour. Quand on fait ce que je fais, c'est-à-dire des soins énergétiques, on est dans l'amour universel. Quand on fait ce que tu fais également, on est dans l'amour universel. Alors, quelqu'un qui va avoir ce chakra complètement fermé, bah, n'aura rien à foutre de personne parce que c'est cœur de pierre et ainsi de suite. Par contre, qui l'a trop ouvert, bah, ça va être le cœur d'artichaut et c'est la personne qui va être dans l'empathie permanente et qui va prendre toute la misère du monde dans ses bras. Donc, c'est pas bien non plus. C'est pas très agréable.
En effet.
Ensuite, le cinquième chakra, donc, qui est au niveau de la gorge, c'est le chakra de la communication verbale et non-verbale. Verbale, bah, c'est tout simplement parler et être entendu et entendre ce que l'on nous dit. Parce que c'est pas que par les oreilles, c'est par le chakra de la gorge. C'est le cinquième chakra. Et non-verbale, bah, c'est la communication par l'écriture, par la musique, par l'art, par enfin, toutes les autres formes de communication qui ne sont pas verbales. Alors celui-là, quand il est bien fermé, ça peut être l'extinction de voix juste avant justement de passer devant les 200 personnes. Et quand il est trop ouvert, bah, on a juste envie qu'il se taise parce qu'on n'en peut plus.
Ouais, mais c'est aussi quand même beaucoup relié à comment on exprime sa vérité aussi.
Oui, parce que bah, de toute façon, il y a un truc très drôle, vous pourrez le remarquer la prochaine fois. Si jamais quelqu'un est en train de vous raconter un crack ou un truc moyen ou je sais pas quoi, il va tout de suite y avoir la SPA dans la gorge, un petit chat qui arrive et qui est... ou un truc comme ça. Et en fait, en général, c'est soit qu'on est en train de dire un truc... C'est pas forcément une histoire de vérité, de mensonge, mais en tout cas, on le dit pas droit comme il faut... Ou alors, c'est justement qu'on entend quelque chose qu'on n'a pas envie d'entendre ou qu'on n'entend pas ce que l'on aimerait entendre. Et c'est tout ça qui va créer justement les petits chats dans la gorge. Mmh. Et puis quelqu'un qui a, je sais pas, des angines à répétition, bah, c'est qu'il va y avoir un problème au niveau de ce chakra. De toute façon, en fait, il y en a à tous les étages. Hein. On verra ça après. Mais Ensuite, sixième chakra, donc l'accès à la spiritualité. L'intuition, donc chez quelqu'un, et puis la projection de la volonté. Quand on veut des choses, c'est par là que ça va se passer. C'est la tête qui envoie pour projeter les intentions, etc. Quand on va avoir ce chakra beaucoup trop ouvert, bah, ça peut être quelqu'un qui a un don de médiumité, mais qui ne contrôle pas, et donc qui va arriver à capter... les maladies de chacun, ou voir quand quelqu'un va mourir, enfin, ou avoir des dons de voyance, mais qu'on n'arrive pas à gérer. Quand, par contre, c'est bien fermé, bah, on se dit qu'il faudrait faire ce truc-là. Finalement, on ne le fait pas. Le surlendemain, bah, mince, j'aurais dû le faire. Ça, c'est l'intuition qui est à plat. Ensuite, accès à la spiritualité. Tout le monde peut accéder à la spiritualité, mais plus ou moins en harmonie, on va dire. Et bah, quelqu'un qui va avoir aucune spiritualité, le sixième chakra est bien fermé. Mais quelqu'un qui va être complètement perché en permanence, bah, c'est le sixième qui est un peu trop ouvert. Et enfin, le septième, bah, puisque le premier nous relie à la terre et rapport relationnel avec la maman, bah, le septième, c'est la relation au ciel et le relationnel avec le papa. Et ce qu'il y a de sacré pour chacun d'entre nous, que ce soit un petit Jésus, un Allah, un Bouddha, un être cher disparu, moi j'appelle ça ma dream team, tous ceux qui sont là-haut, mais en tout cas, on va être au niveau du divin, du sacré, et celui-là, quand il est bien fermé, bah, c'est quelqu'un qui va être... C'est pas une histoire d'être, de pas avoir de foi ou de je sais pas quoi, mais en tout cas, croit en rien, et puis voilà. Et quelqu'un qui va l'avoir beaucoup trop ouvert, bah, il va courir au monastère pour s'inscrire et puis passer ses journées là-bas. Enfin, donc on n'est pas, encore une fois, dans ces extrêmes, forcément, mais en tout cas, moins on va avoir d'énergie, moins l'énergie va être de qualité, plus on va aller vers ces extrêmes et on peut passer aussi de l'un à l'autre en permanence, comme l'anorexie, la boulimie et ainsi de suite. Mmh. D'où l'intérêt de se faire harmoniser les chakras.
Oui, parce qu'alors, Romain, toi, tu es le fondateur de Chakra Zen.
Exactement.
Parce que ça, du coup, je ne l'ai pas dit en présentation, et c'est quand même important. Et tu accompagnes les gens aussi sur la réharmonisation de leur chakra grâce à l'énergie que tu captes.
Exactement.
Hein, et tu travailles avec ta Dream Team. Alors, est-ce que tu pourrais nous en dire plus?
Alors, en fait, j'ai créé une méthode il y a 11 ans de ça, que j'ai appelée rééquilibrage énergétique et harmonisation des chakras, parce que j'ai lié la médecine traditionnelle chinoise et l'Ayurveda indienne. Donc, ma Dream Team, bah, c'est tout simplement ceux qui m'aident en permanence quand je suis en train d'aider quelqu'un. C'est-à-dire, ce sont des êtres qui me sont chers et qui sont disparus. C'est mon papa, c'est mes chats, c'est y a des hamsters, enfin, il y a des animaux. Il y a ma grand-mère, ma mère Odile, brésilienne, qui était mère de saint. Enfin, il y a plein de monde là-haut. Ensuite, il y a les VIP, on va dire. Et à chaque fois que je vais aider quelqu'un, bah, c'est eux qui vont me donner l'intuition, le savoir, ce qu'il faut que je fasse pour faire du bien et jamais faire quelque chose qui ne soit pas bien.
Mmh. Oui, ils te guident, ils sont là avec toi.
Exactement.
En fait. Et du coup, alors toi, tu as fait la rencontre de l'Ayurveda, tu as sûrement trouvé des outils, mais en tout cas, ce que j'ai lu, moi, dans ton livre, c'est que tu utilises le chakra Vidya, donc c'est la connaissance, la sagesse des chakras, avec les cycles de 7 ans.
Exactement.
Est-ce que tu pourrais expliquer un petit peu aux auditeurs qu'est-ce que sont ces cycles de 7 ans?
Alors, en fait, on développe, c'est pour tout le monde pareil, ces chakras tous les 7 ans. C'est-à-dire que de 0 à 6 ans et 364 jours, on va développer le premier chakra. Et puis de 7 ans à 13 ans, 364 jours, le deuxième chakra, et ainsi de suite. Donc il va y avoir des cycles à 0, 7, 14, 21, 28, 35, 42. Quand on arrive à 49, hop, on repart en bas à partir du premier chakra. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que pendant les 7 ans d'évolution de développement d'un chakra, on va expérimenter chaque année un autre chakra en secondaire. C'est-à-dire, je vais prendre le plus facile à décrire, le troisième chakra. C'est le chakra de la confiance en soi, de l'estime de soi. On commence à le développer à 14 ans. Et à 14 ans, bah, on développe le troisième chakra en principal et le premier en secondaire. Donc, c'est-à-dire la confiance en soi, l'estime de soi et le relationnel avec maman. Et en général, quand ça doit bien péter avec maman, 14 ans, c'est pas mal.
Oui.
Mais ça peut être aussi totalement fusionnel. Et c'est pour ça aussi, le premier chakra, c'est l'instinct de survie. Et les ados, parfois à 14 ans, commencent à faire des grosses bêtises pour tester les limites, etc. 15 ans, bah, toujours troisième chakra, la confiance en soi, l'estime de soi. Et puis là, on va être au niveau de la sexualité, de l'alimentation. Quand il y a des problèmes de boulimie, d'anorexie, ben en général, c'est au paroxysme à cet âge-là. Et puis, sexualité, c'est pas forcément qu'on va avoir un petit copain, une petite copine, mais en tout cas, on va découvrir vraiment qu'on est sexué, et ainsi de suite. 16 ans, grand 3, petit 3, là, on est en plein dedans. Et pour peu que le prof fasse la réflexion devant toute la classe, qu'il faut bien en vrac, ou bien le déjeuner de famille... on raconte le truc qu'il ne fallait pas, bah, qu'est-ce qui se passe? Le chakra, il prend des trous dans les ailes. Parce que moi, j'ai décrit ça dans mon livre. Les chakras, c'est comme des moulins à eau. Donc, vous imaginez quatre grandes pales qui tournent dans l'eau comme ça. À 16 ans, c'est une pale du moulin qui part en orbite et puis on ne la retrouve jamais. Et qu'est-ce qui va se passer? Bah, dans la construction de la confiance en soi, de l'estime de soi, cette personne va toujours avoir un petit problème de confiance, d'estime, etc. Et tant que ce n'est pas réparé, on a ça en permanence. Donc, à chaque âge correspond en fait un développement. Et selon les choses de la vie, que ce soit des choses positives ou négatives, etc., bah, ça va influer sur le développement de nos chakras. Et c'est ce qui va construire notre personnalité. Mmh. Et aussi nos peurs, nos envies, enfin tout. Ce qui est intéressant de voir aussi, c'est la période à partir de 42 ans. Donc, on développe le septième chakra, qui est pleinement spirituel, divin, etc. Et puis, bon, 42, on est grand 7, petit 1, c'est-à-dire en relation avec le premier chakra. Puis, 43, deuxième. 44, troisième. 45, quatrième. À partir de 46 ans, on est toujours dans le divin, etc. On a envie d'exprimer sa spiritualité, puis on commence à dire que partirait bien dans un ashram en Inde pour aller voir ceci ou élever des lamas ou je sais pas quoi. Puis à 47 ans, c'est grand 7, petit 6. Alors là, on est pleinement dedans. Et on peut partir en Inde justement dans un ashram. À 48, c'est grand 7, petit 7. Donc effectivement, alors c'est pas pour tout le monde. Il faut que l'évolution spirituelle se soit faite correctement pour arriver à ce niveau-là. Mais ça peut être aussi un peu too much. Et c'est ce qui va faire que de temps en temps, dans les couples, il y en a un qui lâche tout, parce que de toute façon, il n'y a plus du tout le côté matériel des choses, c'est uniquement dans la spiritualité, et si ça va un peu trop loin, effectivement, on peut zapper beaucoup de choses. Là où il faut faire attention, c'est qu'à 49 ans, l'ascenseur, il redescend, et c'est grand 1, petit 1. Donc c'est là où on revient à la maison, en disant, je ne voulais pas partir.
Alors quand on dit grand 1, petit 1, tout ça, en fait, le grand, c'est le chakra...
C'est le chakra principal qu'on développe pendant 7 ans.
C'est ça.
Et le petit 1, c'est le secondaire qu'on expérimente année après année.
Donc ça, c'est important, mes chères pépites, vous qui écoutez, de vous faire un petit plan, comme ça, pour ne pas être trop perdu si vous n'êtes pas, en fait, très, très au point sur les chakras. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
Mais j'ai repris...
Exactement,
c'est ce que j'avais découvert dans un livre... C'est malheureusement plus, mais il est cité. En fait, j'ai remis ce tableau parce que franchement, ça peut aider beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens dans leur couple, dans leur vie professionnelle, dans la façon d'élever les enfants, de comprendre le conjoint, de comprendre l'enfant, etc. Parce que ne serait-ce qu'une différence d'âge dans un couple, de voir qu'il y en a un qui est en plein ceci, l'autre qui est en plein cela, au lieu de se foutre sur la gueule, entre guillemets, parce qu'on n'est pas d'accord, on arrive mieux à comprendre l'autre et donc on arrive mieux à s'entendre. Et à partir de là, ça se passe très bien.
Oui, du coup, vous retrouverez en tout cas tous les tableaux en fait, avec les 7 années détaillées en fait, dans le livre, encore une fois. Donc, cette énergie qui guérit, itinéraire d'un guérisseur des temps modernes aux éditions First. Et le tableau dont parle Romain est inspiré du manuel des chakras, de la théorie à la pratique de Shalila Sharamon et Bodoji Baginski. Et puis, pour ce qui est en tout cas du point sur les 7 chakras, pour avoir les couleurs, les noms, tout ça, et puis un peu plus de détails, vous avez tout ça également dans mon livre, donc l'Ayurveda sourire, quand la joie du cœur et la santé du corps. Donc on va revenir à ce que tu disais, donc quand on change de cycle.
En fait, donc quand on change de cycle, on passe d'un 100% spirituel à non pas un 100% matériel, parce que le premier chakra, grand 1, petit 1 à 49 ans, c'est pas que... Mais de toute façon, ça ne va pas être le même matérialisme qu'à 0 ans. Parce qu'à 0 ans, effectivement, un bébé, le matériel, c'est tout simplement le toucher. Et puis le rapport relationnel avec la mère, effectivement, à 0-1, un bébé, il a besoin de sa maman, et ainsi de suite. Donc, ce qui va arriver pendant les 49 premières années, si jamais il y a des choses qui n'ont pas été réglées, ce qui va se passer, c'est qu'à partir de 49 ans, on risque de nous les resservir pour qu'on puisse justement les re-régler. D'où l'intérêt de se faire nettoyer, de se faire réharmoniser, etc. Mais en tout cas, de ne pas mettre ça sous le tapis, parce qu'à un moment, on soulève le tapis.
Oui. Donc oui, c'est important de le faire régulièrement, et puis alors peut-être encore plus du coup à chaque passage de cycle.
Mais en tout cas, effectivement.
Régulièrement. Et alors toi, comment tu travailles du coup sur les chakras? Comment tu agis dessus?
Alors moi, c'est vraiment un don, c'est pas une pratique. Quand j'ai la main au-dessus d'un chakra, je sens si déjà l'énergie passe. C'est pour ça qu'en général, je fais ça en fin de séance. C'est-à-dire que d'abord, je fais un rééquilibrage énergétique, j'enlève les mauvaises énergies, je mets les bonnes énergies. Et ensuite, quand je vais au-dessus du chakra, soit je sens une tête d'épingle. Donc ça veut dire qu'il est tout fermé, soit c'est débordant, là c'est qu'il est un peu trop ouvert, et puis je vais le faire tourner dans le sens qu'il faut, parce que les chakras tournent dans un sens précis. Chez une femme, le premier chakra tourne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, le deuxième sens des aiguilles, troisième sens inverse, et ainsi de suite. Et chez un homme, c'est le contraire. C'est là aussi pourquoi les hommes et les femmes s'entendent-ils bien, mais en même temps,
de temps en temps, ils buguent.
Mais en tout cas, ils sont parfaitement complémentaires. D'ailleurs, on ne serait pas là pour en parler si ce n'était pas le cas.
Tout à fait. Ça, c'est une très belle transition. Hein. Et alors, du coup, donc tu sens quand il y a des dysfonctionnements. Et en Ayurveda, par exemple, il y a des troubles en fait, qui sont très souvent reliés en fait, à des dysfonctionnements de certains chakras. C'est des choses en fait, qu'on peut sentir, par exemple, dans la lecture du pouls. Moi, en consultation, c'est là où je peux détecter des choses. Et puis, on voit par exemple que, là, c'est un peu logique, mais pour donner des exemples justement parlants, quand il y a des troubles de la fertilité, par exemple, ça peut se ressentir au niveau du deuxième chakra. Et puis après, ça peut être comme ça, en fait, sur tous les chakras. Mais la fertilité, c'est quelque chose qui est important pour toi, puisque tu accompagnes beaucoup les femmes là-dessus.
Exactement. Oui, parce que c'est pareil, ça fait partie du don. C'est que j'aide certaines femmes à tomber enceinte. Et très souvent, effectivement, il y a un dysfonctionnement au niveau du deuxième chakra. Mais il m'est arrivé de voir, c'est un exemple que je donne dans le livre, je travaillais sur une femme qui n'arrivait pas à avoir un bébé. Et au bout de plusieurs séances, j'ai compris que non, c'était pas au niveau du deuxième chakra que ça se passait, mais c'était au niveau du quatrième chakra, c'est qu'elle ne s'aimait pas elle-même. Et donc, si elle ne s'aimait pas, elle ne pouvait pas mettre au monde un enfant. Et à partir de là, en rétablissant le quatrième chakra, elle est tombée enceinte.
Alors, le deuxième chakra, donc, je rappelle, qui est le chakra sacré, qui est au niveau, donc, qui est chakra sexuel, entre guillemets, parce que bon, c'est pas vraiment exact.
Pas que, oui.
Exactement, c'est pas que ça. Et le chakra numéro 4, qui est le chakra du cœur, donc, qui est dans l'amour. Hein, voilà.
Exactement, parce que le quatrième chakra, c'est aimer, accepter d'être aimé et s'aimer soi-même. Et ça, c'est pas donné à tout le monde aussi.
C'est un gros travail. Oui. Et justement, est-ce que tu as remarqué qu'il y a des dysfonctionnements en fait sur certains chakras plus que sur d'autres qui reviennent de façon régulière? Parce que bon, comme on manque beaucoup d'ancrage de nos jours, qu'on n'est pas beaucoup en fait, enfin, il y a beaucoup de troubles de l'estime de soi, de l'affirmation de soi, de ses dons, de son identité aussi. Est-ce qu'il y a des choses qui ressortent particulièrement?
Il est clair que le troisième chakra, donc la confiance en soi, l'estime de soi.
Chez, du plexus solaire,
voilà, chez beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens, c'est pas forcément qu'il en vrac, mais en tout cas, il bug un peu. Mais comme j'expliquais, c'est celui qu'on développe de 14 à 21 ans. Et l'adolescence, ça peut être un long fleuve tranquille, mais ça peut être aussi un peu compliqué. Donc, c'est pour ça qu'en général, c'est un chakra qui a bien morflé. Le chakra du cœur aussi, hein, parce que en amour, j'ai envie de dire, il y a des ailes de moulin qui peuvent sauter. Donc, il n'y a pas un chakra sur lequel je travaille plus, mais en tout cas, ceux qui sont très souvent, de toute façon, à régler comme on règle une horloge, c'est très souvent le troisième et le quatrième chakra pour moi.
Mmh. Oui, parce que tu disais, en fait, souvent tu compares les chakras à un panneau électrique.
Exactement, parce que pour bien comprendre, parce que comme tu le disais, il y a aussi des chakras, des micro-chakras, voilà. Ouais. Mais les sept chakras principaux, en fait, il faut imaginer, parce que moi, c'est sur ceux-là que je travaille, je ne travaille pas sur les micro-chakras, parce que les sept chakras principaux, c'est un peu le tableau électrique de la maison. Donc, il y a un plomb pour le salon, un plomb pour la salle de bain, un plomb pour la chambre, un plomb pour la cuisine. Moi, je vais réparer là-dedans. Ensuite, s'il faut aller changer une ampoule ou réparer une prise dans la cuisine, on peut le faire soi-même. Donc, tout simplement, en harmonisant tous les chakras, c'est vrai que la métaphore que je donne dans le livre et que j'explique assez largement, c'est en fait, il faut voir l'énergie comme l'eau d'une rivière. Et cette rivière, il peut y avoir des trucs qui tombent dedans, hein, que ce soit une rupture, un licenciement, un décès, etc. Et les chakras comme des moulins à eau au bord de la rivière. Donc quand on a une belle rivière avec une belle eau translucide et puis des beaux moulins qui tournent dans le bon sens, tout va bien. Et s'il y a quelque chose qui tombe dedans, avec l'énergie des moulins, ça glisse.
Et du coup, en Ayurveda, pour le bon fonctionnement des chakras, en Ayurveda, on passe beaucoup par le corps pour atteindre les sphères un petit peu plus subtiles. Donc, on recommande bien évidemment une alimentation adaptée, une hygiène de vie aussi qui sera bonne pour la personne en fonction de sa constitution. L'hygiène de vie, c'est aussi les pensées, c'est aussi en fait, enfin tout ce qu'on génère dans la tête, dans le mental, dans l'esprit, c'est également, enfin l'hygiène de vie, c'est également les mots qu'on va utiliser pour se parler à soi et aux autres, parce que les mots ont une résonance sacrée, comme je vous l'ai déjà dit mes pépites lors de mes autres émissions, le son shabda est vraiment sacré en Inde, donc c'est important les mots qu'on utilise, et d'ailleurs les thérapies pour les chakras qu'on utilise beaucoup, en tout cas nous c'est tout ce qui va amener vers un éveil spirituel. Après, éveil spirituel, il faut mettre des guillemets à ça parce que on est tous différents. C'est bien sûr donc l'hygiène de vie, les pensées, tout ce qu'on va faire pour soi. Et puis il y a aussi les sons, les mantras, et puis la méditation et la respiration. Du coup, toi, qu'est-ce que tu recommandes pour un bon fonctionnement des chakras ?
Bah, déjà de prendre soin de soi et puis des autres. Parce que ça s'oublie de plus en plus.
Ouais. Et puis on est relié de toute façon.
Exactement. Mais étant donné, comme tu disais, des pensées positives, c'est vrai que déjà, si on essaye de ne pas penser négativement, il faut savoir que toutes les pensées qu'on envoie, mais pour soi-même comme pour les autres, c'est un boomerang qu'on balance dans l'univers. Et un boomerang, il y a un moment ou un autre, ça revient. Donc, si on n'a pas envie de se prendre un truc négatif dans la tête, bah, faut penser positif, tout simplement. Mmh. Et même s'il y a des choses douloureuses dans la vie, des choses compliquées, etc., faut toujours essayer d'en tirer la partie positive, la partie qui finalement nous fait avancer. Parce qu'en général, quand on a des épreuves, c'est aussi pour nous faire avancer.
Exactement, parce qu'en fait, on crée en permanence sa réalité. Et puis finalement, moi, ma mère me disait toujours, et d'ailleurs pour moi, c'est un peu un mantra et une phrase sacrée, qu'il ne faut jamais blâmer une contrariété. Il y a toujours quelque chose de mieux qui vient derrière. Ouais. Ah, mais c'était... elle était très divine, ma mère. et du coup, alors toi, quand tu travailles sur les chakras, tu utilises l'énergie, en fait, de l'univers.
Ah oui, de toute façon, quand je travaille, j'utilise l'énergie. Et au début, j'utilisais mon énergie. Donc, je faisais une séance tous les 15 jours, il y a 15 ans. Et puis ensuite, j'ai compris que ce n'était pas mon énergie qui fait que j'utilise, mais l'énergie universelle, parce qu'elle est à disposition, elle est là pour tout le monde. Et donc, c'est cette énergie que j'utilise aussi bien pour faire les rééquilibrages qu'ensuite pour harmoniser les chakras. Et ce que j'ai expliqué aussi, alors ça, je ne le fais pas depuis longtemps, et ça peut paraître un peu bizarre, mais j'ai découvert que je pouvais aussi changer un chakra qui bug. C'est-à-dire quand vraiment le moulin, il a trop pris dans les dents, et puis il n'y a plus d'aile, etc., plutôt que d'essayer de le réparer, de le rafistoler, eh ben, en fait, je le dépose, et puis j'en demande un autre, c'est l'univers qui me le donne, et je le pose sur la personne. Et ça permet vraiment de régler parfois des situations qui étaient insolvables.
Mmh. Des trucs où on n'avait plus d'espoir.
Ah oui, que ce soit psychologiquement, physiologiquement, enfin à tout niveau.
Oui. Et du coup, tu peux travailler à distance aussi. Hein. Ça, c'est important peut-être de le dire, justement, puisque cette énergie-là, tu t'y connectes tout le temps. Donc,
Exactement. Et oui, on m'a donné ça aussi, c'est de pouvoir agir à distance, ce qui fait que je fais des séances... dans le monde entier, à des gens que j'ai jamais vus. Alors on me demande, vous avez besoin d'une photo ? Non, c'est pas une question de photo, j'ai juste besoin d'un prénom, d'un lieu, et puis hop, je me mets au-dessus de ma table, exactement comme si la personne était là, et je vais travailler exactement de la même manière, faire les gestes, et ainsi de suite, et en général, les résultats sont là aussi.
Eh ben, est-ce que tu aurais un petit mot de la fin, Romain, avant qu'on présente tes activités ?
Tout simplement, le livre que mon épouse et moi-même avons écrit, c'est mon histoire, mais c'est au-delà de mon histoire. C'est Lilou Massé qui m'a dit « tu devrais écrire un livre sur ce que tu fais, etc. » Parce qu'il y a des gens qui demandent s'ils ont quelque chose, s'ils ont un don, ce qu'ils peuvent faire pour prendre soin d'eux. Et tu as parlé de respiration, tu as parlé d'alimentation. Tout ça est très bien décrit dans le livre. Par exemple, faire 3 respirations par jour tous les matins quand on se réveille, plutôt que se prendre tout de suite la tête de savoir si ceci, à quelle heure est le rendez-vous, on respire 3 fois. On inspire, on expire, en pensant qu'à ça. Ça, c'est énergie du ciel. Donc, quand on respire, on se fait du bien. Et puis, on va se calmer un petit peu. Et comme ça, si jamais avant la réunion... avec le grand directeur, on fait 3 respirations, on va y aller un petit peu plus cool.
Ouais, une meilleure circulation du prana, de l'énergie vitale.
Exactement.
Parce que du coup, tu fais aussi des stages, hein ? grand public.
J'anime des stages, effectivement, qui sont pour le grand public. Alors, il n'y a pas beaucoup de gens, hein, c'est 6-8 personnes maximum. Mais en fait, pour expliquer à tout un chacun, déjà de prendre conscience de cette énergie, la ressentir, parce qu'on peut la ressentir, et puis ensuite en faire quelque chose, c'est-à-dire de pouvoir faire un massage de bien-être, hein, mais un massage énergétique, c'est-à-dire pas juste des papouilles, c'est vraiment donner une intention là-dedans, et puis se protéger quand on le fait, parce qu'on peut vivre, prendre les mots, les miasmes de ses proches ou de, pas de ses proches, hein, de quelqu'un, à partir du moment où on y va comme ça, en vol libre. Non, il faut se protéger, donc demander protection, que ce soit à sa dream team, que ce soit à des pierres, que ce soit... Peu importe, chacun voit midi à sa porte. Mais en tout cas, j'explique tout ça, c'est-à-dire comment déjà capter cette énergie, qu'est-ce qu'on peut en faire. Et à partir de là, bah, faire un massage qui est agréable et qui va apporter de l'énergie à la personne et puis dégager quelques petits trucs qui n'ont plus rien à faire là.
Mmh. Donc du coup, pour en savoir un petit peu plus déjà donc, sur la pratique de Romain, vous pouvez commencer par lire son livre « Cette énergie qui guérit, itinéraire d'un guérisseur des temps modernes » aux éditions First. Vous pouvez aussi participer à un stage pour pouvoir voir un peu comment ça marche et puis essayer, vous, d'utiliser votre propre énergie et comprendre
Exactement.
Ça d'un point de vue plus pratique. Et puis sinon, on peut aussi prendre rendez-vous avec toi.
Oui. Alors, je ne cache pas que j'ai une longue liste d'attentes.
Et tu es victime de ton succès. Là,
oui,
il y a vraiment beaucoup d'attentes.
Mais en tout cas, oui, moi, je fais des séances toute la journée. Mais malheureusement, il n'y a que 7 jours dans la semaine et 24 heures dans la journée. Et je ne suis qu'un. Donc, je fais ce que je peux.
Oui, tu fais au mieux. Donc, du coup, il faudra vous armer d'un peu de patience, hein, et passer par le site. Du coup,
exactement, oui. Toutes les prises de rendez-vous en passant par mon site internet www.chakrazen.com. Donc, c'est H-A-K-R-A, les chakras, et Z-E-N. Et dans la rubrique contact, vous mettez votre nom, votre prénom, votre téléphone, la raison de... Et vous allez recevoir déjà automatiquement toutes les informations. Et ensuite, on vous appellera pour essayer de vous donner un rendez-vous.
Bon, en tout cas, vous retrouverez de toute façon toutes les informations sur Romain en description de cette émission. Et puis, en ce qui concerne l'Ayurveda Sourire, mes chères pépites, vous pouvez bien évidemment me suivre sur Instagram, sur Facebook ou sur mon site, Mihira Ayurveda. Et d'ici notre prochain rendez-vous, je vous envoie une myriade de sourires. Je veux remercier Romain avec le cœur pour sa présence.
Merci à toi, Gwenaëlle.
Merci à vous pour votre attention.
Et je vous dis... Merci à tous.
Et je vous dis à très bientôt pour la suite de nos aventures. Surtout, souvenez-vous, mes chères pépites, que la joie du cœur et la santé du corps. À bientôt.
L'Ayurveda Sourire, une émission présentée par Gwenaëlle Battard, praticienne en médecine ayurvédique, herbaliste, auteure et conférencière.